nous a rejoints parmi la team Fierté Land. Bonjour Léa.
Bonjour.
Est-ce que, comme toutes les personnes qui sont passées par ce micro aujourd'hui, tu peux te présenter Léa, s'il te plaît?
Oui, donc je m'appelle Léa. Je suis une femme trans, lesbienne. Et je suis arrivé dans la région il y a à peu près un an. Ben, là-bas, je devais juste passer des vacances. J'ai juste passé des vacances pour me ressourcer après un confinement très compliqué, dans une ville qui m'écrasait. Voilà, je suis originaire de Marseille et ça devenait invivable. Très très compliqué, familial, amis, toute remise en question au niveau du boulot, plus rien n'allait. Et donc je suis atterri ici pour quelques jours et puis finalement j'ai trouvé du travail, trouvé un appart en moins d'un mois et puis je suis pas parti.
N'est jamais reparti, comme c'est doux comme histoire. Et c'est parce que tu me confiais que voilà, c'était ta transition à Marseille aussi, au bout d'un moment, ça devenait un peu pesant, ce que tu disais, c'était écrasant. Et moi, je me suis dit, de toute manière, je t'ai fait la réflexion aussi, étrange quand même que, à Mont-de-Marsan, ce soit finalement plus facile pour toi.
Il y a moins de monde. Il y a moins de monde et donc moins de gens entassés sur d'autres gens. Et donc, plus d'espace pour respirer, pour sortir. Et puis, c'est une nouvelle ville. En fait, je connaissais quasiment personne. Et donc, c'est plus facile pour prendre un nouveau départ quand on en a besoin.
Et tu as été bien accompagné aussi et bien entouré.
Bien entouré, avec des gens très bienveillants. D'autres un peu moins, forcément.
Oui.
Mais dans l'ensemble, des gens extrêmement bienveillants.
Et notamment l'association Fierté Land.
Entre autres, oui.
Alors on écoutait Joachim donc il y a quelques minutes. Je t'ai vu sourire, voire rire. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ce que tu as entendu?
Oui, forcément, c'est des parcours. Alors tous les parcours sont différents. Il y a quand même certaines similitudes. Quand on voit l'administration, bon, c'est un grand calvaire. On me demande de payer des impôts, mais on me demande pas au bon prénom. Bon. Quand on me demande de l'argent, ce serait bien de le demander poliment quand même. Donc voilà, ce sont des choses, des démarches qui prennent des années. On est heureuse parce qu'on a sa pièce d'identité avec le bon prénom, le bon genre. Mais la carte vitale n'est toujours pas changée et donc on ne peut pas signer de contrat. Et donc quand on a besoin de travailler comme tout le monde et quand on ne peut pas signer de contrat, qu'on ne peut pas toucher le chômage, qu'on ne peut pas toucher d'alloc, à un moment donné ça devient très compliqué. Donc c'est des parcours qui sont épuisants. Déjà au niveau hormonal, il y a des grands bouleversements, comme on disait, c'est une deuxième adolescence, je suis en plein dedans. Donc c'est déjà extrêmement fatigant. Donc si en plus dans le pays des droits de l'homme, on nous met des bâtons dans les roues, ça devient encore plus usant. Et là, je pense à dans certains pays, même européens, où les droits sont encore plus bafoués, voire inexistants. Je me dis que c'est grave, en fait, tout simplement.
Par rapport à la question des représentations dont on a parlé depuis le début de cette émission, toi, du coup, ton identité, est-ce que tu avais des modèles pour te construire? Parce que j'ai pas, du coup, comme je le disais, pu diffuser l'intégralité de l'interview de Joachim, mais on parlait des féminités, des masculinités trans et des modèles très peu visibles. Est-ce que pour toi, ça a joué dans ta transition?
Ça a été très compliqué au début. Et même pendant des années, je savais pas que les trans existaient en fait concrètement, mis à part à travers la pornographie, où enfin, forcément c'est extrêmement mal décrit. Fin... Et donc c'est à Marseille, en côtoyant des personnes du milieu LGBT, que j'ai découvert en fait que ça existait tout simplement. Et que je me suis rendu compte, ben, c'est comme ça que je me sens, et en fait j'ai une vraie représentation de copines en fait qui commencent leur transition ou qui ont fait leur transition une dizaine d'années. Et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai réussi à me dire ah, c'est possible, ah, bah, c'est notre image et qui est quand même vachement plus valorisante. Et puis après sur YouTube un petit peu aussi, je pense à Laura Badler, je crois que c'est ça, et qui est une femme totalement magnifique qui fait voilà, donc, des vidéos et qui est très inspirante, voilà. Donc c'est surtout, voilà, on va dire les amis, et un petit peu internet, mais dans un second plan.
Les créations de communauté, quoi.
Oui.
justement, je voulais savoir si vous aviez, puisque on a bien compris, la visibilité, c'est un problème, mais on peut faire un peu évoluer les choses. Est-ce que, comme Léa vient de le faire, vous auriez quelques recommandations de livres, de films, d'artistes qui pourraient visibiliser un petit peu la communauté queer? Est-ce que vous avez ça pour renseigner nos auditeurices?
Alors, au niveau de ressources, bon, effectivement, bon, y a des perles, littéralement. En fait, j'arrive pas à charger mon document depuis tout à l'heure, c'est ce que j'essaye de faire. Ça veut pas marcher, mais il y a des perles sur TikTok et Instagram. Après, pour les personnes qui se questionnent ou qui ont envie de trouver des ressources, et peut-être qui juste ont envie d'en savoir plus, il y a des ressources qui ont été mises à disposition, du coup, sur le site de la DILCRA, dont on a parlé tout à l'heure. Des ressources qui ont été financées par la DILCRA, mais qui sont portées par des associations LGBT et queer de notre pays. Et vous avez pas mal d'informations là-dessus. Alors après, il y a un site qu'on recommande aussi énormément, c'est Queer Education, où là, il y a pas mal d'outils à destination, bon, principalement des personnels éducatifs, mais également des parents qui seront en questionnement. Et là, il y a pas mal de choses, d'outils, de documents qui peuvent être intéressants.
Il y a aussi le wiki trans,
Oui.
donc qui est facile à retenir pour le coup. Donc oui, il y a quand même pas mal d'informations.
Et je vous invite également à consulter les sites des associations LGBT et des associations trans. Je pense à Trans 3.0 à Bordeaux qui donne quand même pas mal d'informations. Je pense que c'est assez important. Et je sais pas si j'ai 5 minutes juste pour rebondir.
Peut-être pas cinq,
Ouais, beaucoup
une
moins,
et
mais
demie.
c'était sur la transphobie. Parce que tout à l'heure, on a abordé le rapport de SOS Homophobie. Et il y a une particularité cette année, c'est que pour la première fois depuis que SOS Homophobie édite un rapport sur l'LGBTI-phobie en France, le deuxième contexte de LGBTI-phobie dans notre pays, c'est la transphobie. Et ça touche énormément de personnes mineures, puisqu'il y a 16% de personnes mineures qui sont touchées par des actes de transphobie. À l'école, par exemple, les élèves trans sont soumis à la bonne volonté de l'équipe pédagogique, malgré les recommandations du ministre de l'Éducation nationale qui disait que l'élève devait avoir le choix, choisir son propre prénom,
Avec le consentement des
Ah,
parents.
non, justement, si l'élève n'était pas d'accord, l'établissement avait interdiction d'en parler aux parents. Mais c'est qu'une recommandation et c'est appliqué sur aucun établissement. Et ici, dans les Landes, on a déjà fait un rappel à un établissement de. Mais c'est une recommandation. On devrait penser à une recommandation, c'est pas une obligation. Voilà, c'est un peu ça que je voulais mettre en avant. C'est ce qui est un peu inquiétant, puisque effectivement, la transphobie augmente de manière hyper rapide. Et là, ça commence à devenir inquiétant. La rançon de la visibilité. Bah, c'est justement de réveiller l'homophobie, la transphobie ordinaire. On le sait, on l'a vu sur toutes les avancées sociétales dans notre pays.
Et sur cette joyeuse conclusion que nous allons nous quitter, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus partager vos expériences et vos savoirs ce matin sur Radio MDM.
MDM, votre radio locale.
C'est ainsi que le rideau se ferme sur cette série de Margot Guette. Je suis honorée de l'avoir fait, si bien entourée. J'espère que vous aurez tous saisi l'importance de la communauté et l'utilité que représentent sur un territoire des associations comme Certeland et Nos Couleurs. Il en va de même pour chacune des thématiques abordées dans cette émission. Les actrices locales et locaux fourmillent et se démènent au quotidien pour assurer les services dont nous pouvons profiter. Ainsi, je remercie l'ensemble des personnes qui seront passées à mon micro pour ces 24 heures d'émission. Je remercie également mon cher Arnaud Mora, maestro des Margot Guette côté technique et paf qui l'a relayé quand il se prélassait en vacances. Merci pour ton indulgence à l'égard de mes conducteurs jamais parfaits. Chers auditeurs, vous venez d'assister en direct à la dernière émission que je produisais pour Radio MDM, au moins pour le moment. On se recroise bientôt au détour d'un café, d'un match, d'une manif ou des férias. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.